C'est merveilleux de se retrouver. Cette année, au cours de mes voyages, de mes nombreuses visites dans vos salles de classe et de réunion, j'ai pu constater à quel point vous êtes talentueuse et fidèle. Je suis tellement reconnaissant d'être engagé dans cette œuvre avec vous. Je vous aime et je suis vraiment heureux de la bénédiction de travailler avec des disciples dévoués de Jésus-Christ qui s'efforcent de vivre son évangile et de suivre les enseignements et les directives de ces prophètes modernes. Merci pour la façon dont vous menez votre vie et pour votre contribution remarquable au royaume du Seigneur. Au cours de notre dernière veillée avec une autorité générale, M. Russell Ballard a expliqué avec puissance la nécessité de protéger nos élèves des influences extérieures qui peuvent affaiblir leur foi. Il nous a recommandé de les aider à suivre le modèle que le Seigneur a établi pour découvrir la vérité et de soutenir leurs efforts pour trouver les réponses à leurs questions. Il a annoncé, pour ce faire, que le comité de l'enseignement de l'Église a récemment approuvé un programme appelé « Maîtrise de la doctrine » qu'il qualifie de programme inspiré qui arrive au moment opportun. Nous sommes reconnaissants des efforts que vous avez faits pour étudier son message et la documentation que nous vous avons demandé d'examiner pour cette réunion. D'autres ressources vous permettront de vous préparer. J'en suggère une maintenant. Sherido a récemment fait un discours lors d'une réunion spirituelle à BYU Idaho. Son discours, intitulé « Allez-vous engager dans la lutte », vaut la peine qu'on le lise. Puisque nous discutons de la maîtrise de doctrine, j'espère que vous prierez, demanderez l'inspiration pour comprendre comment préparer ces principes et les mettre en place dans vos classes et dans votre famille. Vous serez peut-être intéressé de savoir que la maîtrise de la doctrine a été mise en place dans un certain nombre de classes et la réaction des enseignants et des élèves s'est avérée extrêmement positive. Nos élèves ont exprimé à la fois le besoin et le désir de mieux comprendre la doctrine de l'Église, de la faire connaître et de la défendre. Comme le disait Jerome Clark, ils aspirent aux choses de l'Esprit, sont désireux d'apprendre l'Évangile, et ils le veulent pur et non édulcoré. La maîtrise de la doctrine va occuper du temps auparavant consacré à la maîtrise des Écritures. Elle a pour but d'aider les élèves du séminaire à approfondir leur connaissance de la véritable doctrine, à apprendre les passages scripturaires associés et à s'entraîner à utiliser ces versets et les points de doctrine qu'ils enseignent pour mettre en pratique l'Évangile et découvrir comment réfléchir et répondre à leurs questions. Pour accomplir cela, nous nous appuierons sur les efforts accomplis jusqu'à maintenant pour enseigner les points de doctrine de base et la maîtrise des Écritures. Nous nous efforcerons également de suivre partir de notre ancien programme intitulé « Chercher la vérité » qui aide les élèves et les enseignants à répondre convenablement aux questions doctrinales, historiques et sociales. La maîtrise de la doctrine répond à un besoin des adolescents qui existe également chez nos jeunes adultes. Mais il n'est pas demandé aux enseignants de l'Institut de mettre en œuvre le programme de la maîtrise de la doctrine. Ce sont des cours fondamentaux qui répondront à cette demande. Les enseignants de l'Institut y intégreront les principes associés à la maîtrise de la doctrine. La première partie de la maîtrise de la doctrine s'intitule « Acquérir la connaissance spirituelle » et pose le fondement de tout le reste. Ouvrez votre exemplaire de maîtrise de la doctrine si vous l'avez apporté, document de référence à la partie qui suit l'introduction et trouvez le titre « Acquérir la connaissance spirituelle », page 2 de l'édition anglaise. Dans cette partie, vous allez voir trois principes fondamentaux permettant d'acquérir la connaissance spirituelle. Premièrement, agir avec foi. Cela signifie faire confiance à Dieu et se tourner vers lui par la prière sincère, l'étude et l'obéissance. C'est rechercher l'influence et l'inspiration du Saint-Esprit. C'est se reposer sur le témoignage que l'on a déjà reçu, tout en cherchant davantage de connaissances et de compréhension. Deuxièmement, examiner les concepts et les questions dans une perspective éternelle, ou en d'autres termes, apprendre comment réfléchir aux problèmes et aux questions dans le contexte du plan de salut et des enseignements du Sauveur. Cela exige que nos élèves apprennent à reformuler les questions dans la perspective du Seigneur, et non dans celle du monde, et à comparer ce qu'ils entendent d'Élise au principe de vérité du Seigneur, au lieu d'accepter les théories du monde. Troisièmement, chercher davantage de compréhension au moyen des sources divinement désignées, c'est-à-dire les enseignements des Écritures, des prophètes modernes et des autres dirigeants de l'Église. Les serviteurs autorisés du Seigneur sont une source essentielle de vérité vont aider nos élèves à apprendre la véritable doctrine et à trouver la réponse à leurs questions. Les élèves vont aussi apprendre à distinguer la vérité de l'erreur et à reconnaître qu'il y a de nombreuses sources peu fiables, dont certaines ont pour but de détruire la foi. Après avoir découvert les modèles d'apprentissage qui permettent d'acquérir la connaissance spirituelle, les élèves vont ensuite avoir l'occasion de mettre en pratique ces principes au cours de leur étude des 9 sujets doctrinaux présentés dans « Maîtrise de la doctrine », document de référence et utilisé dans le programme « Viens et suis-moi ». Comme le montre ce graphique, on a identifié pour chacun des 9 sujets doctrinaux des énoncés de doctrine clés, surlignés en jaune. Des passages scripturaires soulignés en bleu, appelés passages de la maîtrise de la doctrine, peuvent être utilisés pour enseigner et renforcer ces énoncés de doctrine. Après avoir étudié la doctrine et les passages scripturaires correspondants, les élèves feront des exercices pour s'entraîner et réviser. Ces apprentissages se trouvent dans le manuel « Maîtrise de la doctrine », documentation de l'instructeur, dont on fournira un exemplaire pour chacune des 4 années d'études. Ces exercices donneront aux élèves l'occasion d'assimiler la doctrine et les passages scripturaires qu'ils ont appris, en établissant des liens avec des situations de la vie courante ou en les appliquant aux questions qu'ils se posent. Ces activités les aideront aussi à être mieux préparés à faire connaître ces vérités aux autres. Pour plus de renseignements et de précisions sur la maîtrise de la doctrine, vous pouvez étudier la documentation portant sur le programme de la maîtrise de la doctrine. Une formation complémentaire sera donnée par les responsables locaux. Pour illustrer comment la maîtrise de la doctrine sera une bénédiction pour vos élèves, je vais vous raconter l'histoire fictive d'une jeune fille qui représente de nombreux élèves assis dans vos salles de classe, avec les mêmes questions et les mêmes préoccupations. J'ai choisi cet exemple parce que je suis le père de 6 filles que j'aime. Et pour lesquelles je prie afin qu'elles ressentent à quel point notre Père Céleste les aime. Imaginez donc une jeune fille du nom de Monica. Elle vient d'une famille fidèle, a pris l'Évangile tout au long de sa vie. Elle adore assister à la classe des jeunes filles et au cours du séminaire. Imaginez qu'un jour, un ami, un professeur, même un membre de sa famille lui dit que l'Église n'accorde pas d'importance aux femmes. L'argument avancé est que le monde reconnaît la contribution des femmes et les traite sur un pied d'égalité. Ce qui amène la question, pourquoi l'Église ne rattrape-t-elle pas son retard sur le reste du monde concernant cette question sociale? Monica n'a jamais eu l'impression qu'elle n'était pas aimée ou appréciée à l'Église. On lui enseignait qu'elle a une nature divine, une valeur personnelle. Elle a de très bonnes dirigeantes des jeunes filles, une mère merveilleuse qui sert joyeusement dans l'Église et dans leur collectivité. Mais Monica ne sait pas bien comment répondre à la question. En fait, cela la travaille de plus en plus. Et elle commence à se demander pourquoi les femmes n'occupent pas certains postes dans l'Église. L'argument qu'elle a entendu sur l'égalité des hommes et des femmes commence à avoir du sens pour elle. Un jour, au séminaire, son instructrice, Sœur Belle, engage une discussion sur la maîtrise de la doctrine concernant la divinité et le fait que Dieu aime parfaitement tous ses enfants et que tous sont semblables pour lui. Ils étudient ensuite de Néphi 26, 33. Pendant la discussion, Monica se demande comment cela peut être vrai s'il n'est pas possible pour les femmes de détenir les mêmes appels que les hommes. Toujours préoccupée par la question, Monica écrit un mot à Sœur Belle demandant « Quand l'Église sera-t-elle comme tout le monde et traitera-t-elle les hommes et les femmes de même façon ?» Le lendemain, Sœur Belle décide d'aborder la question en cours. Elle demande comment une personne qui se pose cette question peut agir avec foi. Les élèves parlent de l'importance de prier notre Père Céleste pour recevoir de l'aide et de la compréhension. Une élève mentionne l'importance de s'attacher à ce que l'on comprend déjà de sa relation avec notre Père Céleste et raconte comment elle est parvenue à savoir que notre Père Céleste l'aime et l'estime. Ensuite, pour aider la classe à examiner la question dans une perspective éternelle, Sœur Belle leur demande sur quelle théorie du monde elle repose. Elle demande comment le monde définit-il l'égalité. Quelques élèves ont remarqué que les gens pensent que l'égalité signifie que tout doit être pareil pour les hommes et les femmes. Un jeune homme explique que pour le monde, le poste détermine l'importance. Et cela peut conduire à penser que certains appels dans l'Église ont plus de valeur que les autres, Ce qui rend injuste le fait que tout le monde ne peut pas avoir ces appels. Cette instructrice aimante demande alors, comment il pourrait reformuler cette question dans la perspective du Seigneur? Comme cela peut être difficile, car cela demande de l'entraînement, Sœur Bell propose les questions suivantes. Comment le Seigneur définit-il l'égalité? Ou comment le Seigneur voit-il le rôle de l'homme et de la femme dans le plan du salut? Un élève dit que, pour le Seigneur, l'égalité ne signifie pas que les hommes et les femmes sont exactement pareils. Un autre dit que dans le plan du salut et dans l'Église, les hommes et les femmes ont des rôles différents mais tout aussi importants. Une jeune fille dit, « Je vois la chose un peu différemment. Est-ce qu'il s'agit de ce que nous voulons? Ou devons-nous nous occuper davantage de ce que le Seigneur veut? » Sœur Bell remercie les élèves pour leurs idées. Elle leur rappelle que le Sauveur ne voit pas les appels et les postes de dirigeants comme le monde les voit. Elle fait remarquer que les Écritures enseignent que l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », mais que tous les membres font pleinement partie du corps du Christ. On a besoin de tout le monde, et chacun a l'occasion de servir. Sœur Bell demande ensuite, « Pendant son ministère terrestre, comment le Sauveur a-t-il montré qu'il aimait estimer les femmes? » Avec l'aide de leur instructrice, les élèves réfléchissent à la façon dont il a traité sa mère, la Samaritaine près du puits, et Marie-Madeleine. Ils se souviennent aussi des miracles qu'il a accomplis afin de bénir et de guérir des femmes. Sœur Bell demande alors, « Quel est le troisième principe permettant d'acquérir la connaissance ?» Les élèves ont répété ce processus suffisamment de fois pour savoir que c'est rechercher davantage de compréhension au moyen de sources divinement désignées. Elle demande alors à ses élèves d'essayer de se souvenir des passages scripturaires et des discours des dirigeants de l'Église qui y ont trait. Ils trouvent de la documentation, comme la déclaration au monde sur la famille et le sujet de l'Évangile. Un discours en particulier attire l'attention de Monica. Il s'agit du discours de Linda Burton, intitulé « Nous nous élèverons ensemble ». Sœur Bell propose aussi le discours prononcé par Russell Nelson intitulé « Plaidoyer à mes sœurs ». Monica les note dans son journal d'études et décide de les relire plus tard. À la fin de la discussion, Sœur Bell témoigne de l'amour du Seigneur pour ses fils et ses filles. Et rappelle à ses élèves le passage de la maîtrise de la doctrine qui dit « Le Seigneur fait ce qui est bon parmi les enfants des hommes ». Il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Tous sont parés pour Dieu. Sœur Bell recommande à ses élèves de continuer d'étudier cette question à l'aide de la prière et de parler de ce qu'ils ont appris pendant les prochains cours. Ce jour-là, Monica quitte le cours en sachant où chercher les réponses. Il sait qu'elle a une instructrice qui est disposée à l'aider. Elle a ressenti l'esprit apporter l'inspiration et la paix. Il y a tant d'élèves assis dans nos salles de classe qui sont exactement comme Monica, avec des questions importantes et le besoin que vous leur appreniez comment trouver des réponses et choisir la foi. J'espère que nous ferons tout notre possible pour mettre efficacement en œuvre ce programme. Souvenez-vous de ce que Elder Ballard a dit en le présentant. Le succès de la maîtrise de la doctrine va en grande partie dépendre de vous, les instructeurs. Après avoir expliqué clairement ce qu'est la maîtrise de la doctrine, je vais maintenant donner quelques exemples de ce qu'elle n'est pas. Elle n'a pas pour but de répondre à toutes les questions. Elle enseigne aux jeunes comment chercher la vérité, comment réfléchir aux nouveaux éléments d'information et comment répondre aux questions qu'ils se posent. Les principes enseignés sur le site Internet « Chercher la vérité » sont essentiels pour aider les élèves à apprendre le processus divinement désigné permettant de découvrir la vérité, se sentir aimé et jugé digne de confiance dans les salles de classe et y trouver par eux-mêmes la réponse à leurs questions. La maîtrise de la doctrine ne remplace pas l'enseignement séquentiel des Écritures. Elle occupera le temps consacré par le passé à la maîtrise des Écritures, exige que les enseignants commencent le cours à l'heure, en gérant efficacement leur temps. On peut lui consacrer en moyenne une trentaine de minutes par semaine. Les enseignants ont toute latitude concernant la façon de mettre cela en œuvre, comme l'explique le manuel « Maîtrise de la doctrine, documentation de l'instructeur ». Une préparation, une planification soigneuse permettront à l'enseignant de l'intégrer efficacement dans le temps de cours. La maîtrise de la doctrine ne permettra pas de faire toutes ces choses que l'on faisait par le passé avec la maîtrise des Écritures. pendant ce temps précieux mais limité, il faudra se concentrer sur l'étude de la doctrine, des passages scripturaires et sur les exercices activités de révision. Nous n'aurons probablement pas le temps de faire des activités de mémorisation en classe. Il est vrai que certaines activités de maîtrise écriture faites dans le passé ne correspondent pas à l'esprit et à l'objectif de la maîtrise de la doctrine. Mais comme la mémorisation des passages scripturaires peut être une bénédiction pour nos élèves, les enseignants peuvent leur recommander d'apprendre par cœur ces passages en dehors des cours. Comme je l'ai déjà dit, la maîtrise de la doctrine n'est pas directement destinée à l'institut. Cependant, il est indispensable que les instructeurs du séminaire et de l'institut comprennent les principes de ce programme et les intègrent à leur enseignement. Ces principes sont les suivants tant pour le séminaire que pour l'institut. Les élèves ont davantage tendance à se poser des questions sincères et à se tourner vers des sources fiables lorsque l'atmosphère de notre salle de classe est empreinte d'amour, de respect et de détermination. Aidez-les à voir que le Seigneur les aime. Ce sont ses enfants. Aidez-les à se considérer comme des enfants de Dieu et des disciples de Jésus-Christ. Aidez-les à savoir qu'ils sont aimés et que l'on a besoin d'eux. Les élèves sont plus susceptibles de poser des questions sincères et de se tourner vers des sources fiables s'ils savent que nous les écouterons et essaieront de comprendre leurs besoins sans être prompts à juger ou à condamner. Avant de répondre à leurs questions, nous devons apprendre à bien écouter, à observer et à rechercher l'esprit de discernement à l'aide de la prière. Cela nécessite que nous soyons patients, compréhensifs et aimants. Gardez à l'esprit que pour favoriser les changements dans la vie des élèves, il faut souvent les conseiller individuellement. Bien que nous n'ayons pas à prendre la place des parents ou des dirigeants de la prêtrise, nous devons montrer aux élèves que nous nous intéressons à eux et à leurs questions. Si un élève a l'impression que sa question n'est pas prise au sérieux, il cherchera la réponse ailleurs. Et nous ne pouvons pas nous en remettre à Internet pour promouvoir la foi. Quand leur foi est attaquée, les élèves réagissent mieux lorsqu'ils comprennent le rôle des prophètes de Dieu sur la terre et le fait que nous nous rapprochons du Sauveur en suivant ses serviteurs fidèles. Aidez-les à examiner toute information à la lumière de la vérité révélée par l'intermédiaire des prophètes du Seigneur en ces derniers jours. Enseignez la vérité, enseignez-la avec gentillesse, mais clairement et avec un témoignage pur. Enseignez l'Évangile tel qu'il est enseigné dans les Écritures et par les prophètes modernes. Enseignez-leur que la recherche honnête de la vérité exige des efforts. On ne peut pas donner des réponses superficielles à des questions compliquées. Enseignez aux élèves que leur capacité de se qualifier pour recevoir l'aide du Saint-Esprit dépend grandement de la disposition de leur cœur et de l'intention de leurs questions. Ils doivent apprendre à demander avec foi, avec une intention réelle, avec le désir sincère de se conformer à la vérité que le Seigneur a disposée à leur donner. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas apprendre l'Évangile à leur place. Ils doivent étudier et prier pour trouver les réponses à leurs questions. Nous devons aussi nous rappeler que nous ne devons jamais semer des graines de doute. Un grand nombre de nos élèves ont la bénédiction d'avoir le don d'un cœur disposé à croire. La plupart de nos élèves ont des questions, pas des doutes. Notre manière d'aborder la maîtrise de la doctrine doit confirmer la foi et aider les élèves à répondre aux questions par eux-mêmes et les préparer à faire de même pour d'autres. Mais il ne faut jamais le faire d'une façon qui crée le doute et diminue la foi. Vous avez vu à quel point c'est nécessaire. Vous l'avez ressenti. Je vous exhorte à prier, à réfléchir. Connaissez la doctrine. Connaissez ce que les prophètes disent actuellement sur les questions doctrinales et historiques. Demandez au Seigneur de vous aider lorsque vous vous préparez, enseignez et répondez aux questions qui sont importantes pour nos élèves. Je me joins à la prière du président Clark qui est dit « Puisse le Seigneur vous donner accès au cœur des personnes que vous instruisez, puis de vous faire savoir que lorsque vous y avez pénétré, vous vous tenez en un lieu saint. » Au nom de Jésus-Christ, Amen. »